21 novembre à Enghien-les-Bains. À très bientôt.
Vendredi 13 novembre de 21h à 23h sur France Inter, concert Constantin présenté par Vali. Le jury présidé par Olivia Ruiz a consacré Émilie Loiseau, lauréate du prix Constantin 2009. Renseignements, franceinter.com. France Inter.
La différence.
Il est 15h04, passé de 10 secondes. Tout de suite, là-bas, si j'y suis, avec Daniel Mermé.
Bonjour, c'est Daniel de Saint-Martin-en-Vercors. Donc, Sarko vient à la chapelle, il pose une gerbe au mur des fusillés et fait un discours au gymnase du collège de la chapelle. On aurait pu imaginer qu'il soit accueilli par les élèves. Quelle belle leçon d'histoire et de civisme ça aurait pu faire. Eh bien non. Au lieu de cela, on renvoie les externes chez eux et les internes sont cantonnés dans un autre bâtiment, avec bien sûr interdiction de sortir dans la cour. Par contre, les militants UMP sont fortement invités à faire la claque et à venir nombreux en quart à la chapelle en Vercors. Et oui, c'est ça la maîtrise des médias.
Oui Daniel, c'est pour un renseignement généreux. À l'hôpital de la Timone de Marseille, quelques dizaines d'hospitaliers seulement sur plusieurs milliers d'agents ont accepté le vaccin de Madame Bachelot. Et c'est comme cela dans toute la France. Le corps médical rejette la propagande de l'OMS et du gouvernement pour une vaccination de masse. Les experts corrompus par les entreprises du médicament ont monté de toutes pièces le scénario d'une pandémie grippale mortelle. Et en 2009, comme en 2005 pour le référendum, c'est grâce à Internet que les faits incontestables sur la banalité de cette grippe et sur les conditions de mise au point des vaccins ont pu être diffusées dans la population. Il faut recommander l'excellent travail du site Pharmacritique, l'analyse du docteur Martin Vinclair, les dossiers très fouillés du docteur Girard et les prises de position de la revue Prescrire. Alors pour les auditeurs, je te donne, Daniel, les conclusions tant attendues de la revue Prescrire dans son numéro de novembre. C'est la seule revue de formation médicale française qui n'accepte pas la pub des laboratoires pharmaceutiques. Alors elle conseille ceci. Chez les adultes et les nourrissons en bonne santé, la gravité, somme toute sans particularité de cette grippe, ne justifie pas une stratégie vaccinale différente de celle mise en œuvre contre la grippe saisonnière. Chez ces personnes en bonne santé, autant se passer de la vaccination. Comme pour la vaccination annuelle contre la grippe saisonnière, les personnes susceptibles de tirer un bénéfice de la vaccination sont celles qui présentent des affections lourdes avec risque élevé de complications graves en cas de grippe. Ça ne devrait pas être le rôle du répondeur de diffuser ses conseils médicaux de bon sens, mais apparemment, à l'antenne, la propagande écrase tout.
Oui, bonjour à tous. Je vous appelle parce que j'ai entendu hier que Monica Bellucci avait touché 190 000 euros pour participer à une soirée au profit de la Fondation Ouzbékistan, cette célèbre démocratie. Recevoir des sommes aussi importantes pour des durées si courtes, provenant d'un pays où les gens, j'imagine, sont sous la botte de la dictature et doivent manger la terre. Est-ce bien raisonnable? D'un autre côté, est-ce que beaucoup d'entre vous refuseraient 190 000 euros pour 4 heures dans une soirée? La question est là aussi. Qui refuserait? On ne sait pas.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Eh bien, c'était très intéressant l'émission de cet après-midi. Et voilà, ça remet en question ce tabou qu'on nous a mis en tête depuis notre plus tendre enfance, en fait. Que la guerre, c'était nécessaire, que la guerre, voilà, qu'il fallait se battre pour son pays, tout ça. Je pense qu'on a fait, la plupart des auditeurs de là-bas, si j'y suis, comme moi, comme vous, l'équipe et tout ça, nous avons dépassé ce tabou. On sait très bien que les guerres, ça ne sert que des intérêts des grands industriels, comme tu as dit, Daniel. Mais pas beaucoup de gens, en fait, ont dépassé ce tabou. Ce serait très intéressant, d'ailleurs, d'étudier les tabous, justement, comme le fait de dire aux gens de remettre en cause le capital, le capitalisme. C'est, en fait, que ce sont les grands industriels, que ce sont les grands actionnaires qui mène le monde, c'est, voilà, beaucoup de gens n'ont pas encore été jusqu'à dépasser ça, quoi. On dit ça aux gens, la plupart ne l'admettent pas, pourtant, voilà.
Salut Daniel, salut à tous, c'est Saïd de Paris. On a tous vu hier l'allemande Merkel à l'Arc de Triomphe et je me dis, quelle leçon il nous donne à tous, si on veut bien en tirer une. Voilà un haut responsable politique allemand qui vient en France, chez l'ennemi d'hier, pour célébrer la défaite militaire de son propre pays. Et tout ça sans encourir le moindre reproche ni suspicion de la part des Allemands. C'est lourd de sens quand même et je pense que pour en arriver là, les Allemands ont tout simplement compris que le peuple allemand dans sa totalité n'est pas lié par les choix idéologiques de l'Allemagne officielle du début du XXe siècle, et qu'ils peuvent les rejeter, voire faire carrément un bras d'honneur à l'Allemagne des généraux, des ministres et des industriels de l'époque, tout en restant des Allemands dignes de leur pays. Et je pense qu'il y a un enseignement à tirer, et ça me fait penser aux polémiques qui fleurissent en France à propos de la colonisation. Et je me dis vivement que les Français prennent de la graine sur les Allemands et comprennent, comme eux, que les choix idéologiques de la France officielle du XIXe ne les engage pas s'ils ne le veulent pas, et qu'ils peuvent les rejeter tout en restant d'authentiques patriotes. Et qu'après tout, il y a une autre France à laquelle ils peuvent s'identifier, et avantageusement, je pense à celle de la Révolution, celle de la Commune, celle de la Résistance, celle du Conseil de la Résistance, et bien d'autres. Et quand ce jour-là sera venu, je suis sûr que les Français fêteront tous avec plaisir la défaite du colonialisme et de la colonisation, tout en pensant que c'est aussi une victoire de la France et des Français. Merci beaucoup. Salut Daniel, au revoir.
Et merci beaucoup, cher auditeur. L'analyse qu'on vient d'entendre est formidable. Et si vous en avez les moyens, réécoutez ça, on vous fera écouter. Parce que c'est absolument lumineux et ça éclaire notre émission d'aujourd'hui. Il y a bien sûr la France des nantis, la France des dominants, la France des ganaches décorées, et qui nous demanderait toujours de partager leurs crimes et de porter collectivement, nationalement, patriotiquement, leurs crimes et leurs décisions. Et puis il y a le refus de ça, de dire non, nous n'avons pas colonisé, non, nous n'avons pas martyrisé, non, nous ne sommes pas conduits de manière indigne, non, nous n'avons pas collaboré. Il faut refuser cette culpabilité collective et effectivement choisir, eh bien, une France, ma France, comme disait Ferrat, par exemple, magnifique chanson. Alors il y a ceux qui peuvent choisir et puis il y a ceux auxquels une certaine France s'impose, une certaine vision de la société française s'impose, tout, j'allais dire tout naturellement, tout simplement. Et c'est le cas de l'homme avec qui on va passer cette heure. Il s'appelle Raymond Lagardère et il est paroupian. Qu'est-ce que c'est que les paroupians? Voilà un mot que peu d'entre vous connaissent. Eh bien, les paroupians, ce sont les habitants de Saint-Symphorien. Et des Saint-Symphoriens, il y en a quelques-uns en France, et celui-là est en Gironde, 1500 habitants, parmi lesquels Raymond Lagardère, né en 1925, et qui va nous raconter sa vie, tout simplement, mais celle d'un lutteur social. On raconte insuffisamment l'histoire sociale de notre pays. On raconte l'histoire, on l'a vu encore récemment avec la chute du mur de Berlin. On nous a parlé de Gorbatchev, de Kohl, de Mitterrand, de Valessa, etc. C'est-à-dire les figures. Mais le peuple derrière ça, que voulait-il? Que faisait-il? En quoi est-ce qu'il agissait sur l'histoire? Eh bien, on va voir, là, avec Raymond, que à travers la vie d'un homme qui a tenté d'agir sur l'histoire, se révèle et se raconte beaucoup de choses qui nous concernent et qui nous intéressent aujourd'hui dans cette France d'aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Laurent de Toulouse. Ça ne se passe plus dans les journaux ou à la télé, mais dans l'immeuble voisin du mien. C'est un matin brun qu'Angèle a été arrêtée et mise en centre de rétention. Angèle est en France depuis 10 ans, y a travaillé avec des CDI et paxé avec Louis, un voisin. Depuis 3 ans qu'elle est paxée avec lui. Angèle est originaire du Togo où son engagement auprès de l'UFC, l'Union des Forces de Changement, a entraîné le saccage de sa maison et la mort de son frère lors d'une manifestation. Inutile de vous dire que son retour pourrait y être dramatique. Pour éviter cela, vous pouvez rejoindre ses voisins, amis et famille devant la préfecture de Toulouse, ce jeudi 12 septembre à 16h, devant la préfecture, place Saint-Étienne. Allez, vous avez encore le temps de nous rejoindre pour des matins roses. Salut Daniel.
Oui, bonjour les auditeurs de la Basse si j'y suis. Ce soir à la librairie Quilombo à Paris, on va parler du bonheur et du capitalisme. Comment le capitalisme nous rend heureux, avec l'exemple d'une île en plein milieu du Pacifique, Nauru, qui avait une mine de phosphate qui les a rendus riches, richissimes, à s'acheter des Ferrari, à pu avoir besoin de se faire à manger, à consommer. Quoi, le bonheur total. Sauf que, on va s'apercevoir que ça a fini par tout détruire. Donc on reçoit Luc Folliette, qui a écrit un bouquin Nauru, l'île dévastée, et qui nous montre comment le pays le plus riche du monde est devenu le plus pauvre du monde. Donc c'est ce soir à la librairie Quilombo, 23 rue Voltaire dans le 11e arrondissement, à 19h45, 20h on va dire, donc à Paris. Bonne journée, au revoir.
C'était l'originier, la résine. Et après, on a passé à partir de la gomme, on a dit la gemme. On nous faisait 5 pains chacun. C'est un travail de forçat. Hein. Ah. Allez, Ricard, où tu es là?
Comment il s'appelle?
Ricard.
Ricard.
Ouais. Ricard, ça ne boit pas? Tout. Sur là. Comment il s'appelle l'émission?
Elle s'appelle Là-bas si j'y suis. Là-bas.
Là-bas. Là-bas.
Ouais. Si j'y suis. Voilà. À 15h.
Tous les jours?
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis, avec Antoine Chao, Raymond Lagardère, le résigné, pas résigné.
Flight number 2, arriving from New York.
Raymond Lagardère, né le 30 septembre 1925, né à Sorgues, d'ailleurs, dans les Landes, je suis landais d'origine. J'étais scolarisé, comme tout le monde, 5 ans, ou 5, presque 6, avec des bonnes sœurs, institutrices. Chez les bonnes sœurs, d'ailleurs, je commençais à avoir un peu de, je sais pas, prédisposé à protester. Les bancs de l'école, Notre-Dame de l'Assomption, étaient faits avec des lattes, à moi, et la prière, c'était à l'entrée, à la sortie de récréation, je crois que de mémoire, il y en avait 7 ou 8 par jour. Par journée de prière. Et à genoux sur le banc, les lattes de bois, j'ai fini par dire à ma mère, je ne veux plus y aller, j'ai mal au genou. Alors, débat familial. Mon père était pour l'école laïque, et mon grand frère, qui avait 5 ans de plus que moi, était à l'école laïque. Le rapport des forces a fait que ma mère a capitulé, je ne suis plus allé à l'école de Notre-Dame d'Assomption.
On pourrait en rester là, avec Raymond Lagardère, dans ce qu'il vient de dire, 1 minute et 18 secondes, il y a toute une époque. Toute une époque et plus qu'une époque. Ce conflit qu'il évoque entre son père et sa mère date de 1930. Probablement qu'on employait encore dans cette région cléricaux et républicains. La maman était plutôt cléricale et le papa plutôt républicain. Républicain, ça voulait dire laïque. Et laïque, souvent, ça voulait dire rouge. Tandis que clérical, clérico, ça voulait dire blanc. Vous vous souvenez? Cette balade qu'on a faite avec Antoine Chao dans son coin là-bas dans les Landes vers Saint-Symphorien où il était question de blanc et de rouge. Dans ces Landes-là, eh ben voilà, on retrouve ça dans ces moindres mots. Et on va voir la réponse que Raymond Lagardère, à 85 ans, pourrait faire à un homme qui a quasiment le même âge que lui, un peu plus âgé, qui est Howard Zinn, l'historien américain, qui adore poser à ses interlocuteurs la question suivante. Comment en êtes-vous arrivé à penser ce que vous penser? Eh bien, on va avoir la réponse de Raymond Lagardère. Comment en est-il arrivé à penser ce qu'il pense, cet homme-là, qui a été toute sa vie un résigné, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la résine des arbres, des pins, des landes, donc un ouvrier en somme, mais pas seulement, un syndicaliste, un homme de lutte, un homme avec une conscience sociale. Je le disais en commençant, on nous enseigne peu la mémoire sociale, l'histoire sociale de notre pays. Et pourtant, nous sommes les enfants, les descendants, et on est tous d'accord, ou presque là-dessus, des révolutions américaines et françaises. Et ces révolutions américaines et françaises avaient pour origine et pour base la lutte sociale. Et tout ce qui nous fait aujourd'hui la République, les lois sociales, les avantages divers et variés, eh bien tout ça a été obtenu de hautes luttes sociales. Or, on nous enseigne peu ou pas cela. Alors aujourd'hui, Raymond Lagardère, lutteur social dans les Landes, paroupiant de Saint-Symphorien, dans ces landes plantées de pins, où un certain Théophile Gautier, le poète, vous avez forcément rencontré, croisé ce poète à l'école, se promenant, ne sachant à quoi m'occuper, l'esprit, disait-il, pendant cette route interminable, je m'amusais à composer la petite pièce en vers suivante, inspirée par ces pins mélancoliques. Car, pour lui dérober ses larmes de résine, l'homme avare bourreau de la création, qui ne vit qu'aux dépens de ceux qui l'assassinent, dans son tronc douloureux ouvre un large sillon. Jusqu'à 16h, Raymond Lagardère, le résigné, pas résigné.
La frenisie mi pugni e la velana, mai fede di nuestri con suffi luz, vien più l'usile stella tra montana, fan der rabali bei sume d'aucus. Polei mi trunche la su su devona, a chi ta vien un po' d'un molestier. La leva fa d'un che sigue flona, sana resticala mentran de dieu. Se cau caffè sa pruvan en patrulla, en cian cristian dal di mincio di l'un. A la venide langa fare in ciuia, li bossu vannu se calupe tlan. Già che lei zoomia vien più di de saba, pa me n'hai vito un ba de tre par due. Sa vien lu cuor più rugi che una raba, e de ma vida hai vita in flamme bues meste l'olem ve coca fuero lieno, perché via pa mundevo e l'un veni la ven fa pao e me nu estai bagnero, e lei forsa circunde nu puni. Ben souvenez, quand feva beau la sainte, n'avions bourra déçu les hommes blancs. Les carcéliens, une fière tremblante, et son revenge à cause des vieilles brigands. À de l'oukou, c'est plus non, dit chafroya, car n'a l'esti per nous faille les courants. Des noix, c'est ma ou du égout, ni buena voya. Et si bastide, elle est per la tchala. Coupe à la coque, à droite sur la canaille. Allez, fena des mandoun des plaisirs. Et si allez, la marie d'un paysan. Yes, blancos tous que canes be fregi. O l'uveni mi pugne la velano, mai fede di un osti con su fulù, vien più l'usile stella tramontana, fan dei rabali beisume d'un cu.
Vos parents étaient métayers, c'est ça?
Oui, ma soeur, ils étaient chez un petit parvenu, là, qui était un ancien métayer, mais il avait ramassé quelques pièces quelques sous, sans doute. Il avait acheté quelques biens, et puis il était venu marchand de vin, et il voulait faire comme les gros, exploiter plus petit que lui, quoi. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, je me souviens d'avoir été avec ma mère, qui était tenue d'aller faire gratuitement des lessives chez ce petit propriétaire. Hein. C'était prévu dans la location, quoi. Il fallait faire les redevances.
Les redevances.
Un temps de journée de lessive, un temps de journée de nettoyage, etc. Pour les femmes et les hommes, pareil. Hein. En plus, qu'il fallait porter des chapons, un morceau de cochon quand on en avait, etc. Alors, comme ils en avaient marre, ils avaient trouvé ici, là, où je suis maintenant, d'ailleurs, une métairie un peu mieux, un propriétaire peut-être moins exploiteur que l'autre. Un petit peu, oui. C'était un tout libre, d'ailleurs. Bon.
Pour comprendre ce que dit Raymond, il faut revenir un tout petit peu en arrière dans cette forêt des Landes où nous sommes un million d'hectares quand même. Hein. Landes de Gascogne, à cheval sur les Landes et sur la Gironde, planté de pin des Landes, qui est, il faut le rappeler, une exploitation industrielle dont le reste de la France a entendu parler au moins deux reprises, lors de la tempête de 1999 et lors de la tempête de 2009. Alors, pour piger un peu, il faut revenir un peu à l'image du berger landais. Le berger landais, sur ses échasses, gardant ses moutons, c'est une figure presque comique de la bande dessinée. Mais ce personnage-là, il a disparu. C'était une figure qui datait d'avant l'implantation des pins dans cette région qui s'est faite dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et ces bergers, avec leurs moutons sur leurs échasses, eh bien, c'était une population qui possédait des terres en commun. La moitié des terres étaient en commun, ce qui permettait de nourrir la famille, de tirer quelques profits de l'élevage. Et puis, deuxième moitié du 19e siècle, implantation de la forêt et expropriation des petits propriétaires, disparition de ces populations, et on installe, donc on implante des forêts, et ce sont des décisions venues de Paris. Bien évidemment, on a dit, mais c'est pour assainir, ce qui n'était pas faux, retenir le sable, en fait, des mesures écologiques qui masquaient en partie une vaste opération industrielle avec de gros investissements pour produire l'or blanc, c'est-à-dire la résine utilisée dans l'industrie sous forme d'essence de térébenthine et de colophane, des produits qui ont été utilisés, sont toujours utilisés dans toute une série d'applications. Mais cette implantation des pins dans cette région des Landes a transformé complètement la vie, je le disais, et a permis à des petits propriétaires locaux de devenir, de se renforcer, et à des investisseurs d'ailleurs, du reste du pays, de Paris par exemple, et bien de devenir propriétaires. Et donc les anciens bergers, pour certains d'entre eux, ont été obligés de se recycler et de devenir métayers. Ça a été le sort des parents, donc, de notre Raymond, qui nous raconte sa vie.
Alors ici, on est chez vous, Raymond ?
Oui, c'est Nérial. On a conservé les riales tels qu'ils étaient du temps des métairies. Ici, il y avait 11 familles qui habitaient dans ce hameau, et tous, pratiquement tous, métayers résiniers. Voilà. Très solidaires entre eux. Je suis calé de temps en temps, quelquefois pour des raisons de politique, les cléricaux et les républicains. Et entre parenthèses, je me souviens d'une scène, moi, là, entre deux voisins, ils s'appelaient, prénommaient tous les deux Désir, d'ailleurs. Un, il votait.
Désir ?
Désir, oui, uh-huh. Désir, comme ma chaîne. Il y en a des désirs, là, les modernes. Et l'un votait à droite, l'autre votait communiste, déjà. Moi, j'étais gamin, hein. Ils se sont rattrapés, là, pas loin, là, sur un chemin, là. Ils ont failli en venir aux mains, parce que celui qui votait à droite, il a dit à l'autre, oh, les communistes, vous n'êtes bons que pour faire du hachis. L'autre, il avait son outil à la main, il a failli lui bondir dessus. C'est marrant. Et vous voyez, l'histoire est particulière quand même. Le désir, monsieur Désir qui votait à droite, quand j'ai été, moi, responsable syndical, il était sur son lit, ça faisait 15 jours, il a envoyé son gendre me chercher, il voulait me voir. Et j'y suis allé. Le soir, il a 10 heures solaires à l'époque, c'était. Et il m'a parlé un peu. Il m'a dit qu'il avait fichu le prêtre à la porte, qui était venu pour lui donner les derniers sacrements. Et puis il me prend la main et il me dit, Mondol, continue. Mondol, continue. J'ai tout compris. Il avait évolué. Et l'histoire avait porté dans sa tête. La preuve, c'est que moi, le communiste, je n'étais plus bon pour faire du hachis. J'étais bon pour continuer la lutte. Voilà, c'est ça que j'ai compris. C'est un message particulier et je l'ai toujours à l'esprit de ce vieux bonhomme qui avait changé complètement sa compréhension des choses. J'étais déjà responsable syndical au niveau de l'Aquitaine.
CGT, voilà. C'est ça?
Bien sûr. La question ne se pose pas pour moi. Voilà.
Alors, l'histoire de la propriété, ici, quand même, elle est particulière. Il y a 90%, je crois, du massif forestier gascon qui est privé.
Absolument. Pratiquement tout le massif est de propriété privée. Les communes en ont bien un petit peu, celles qui ont su conserver les biens nationaux. Et l'État, il a à peu près 50 000 hectares sur le littoral, géré par l'Office national des forêts. En 1857, c'est la loi de Napoléon qui a pratiquement obligé les communes à aliéner les biens. Pour voir aussi la question, comme les conseils municipaux n'étaient pas élus comme ils le sont aujourd'hui. Moi, dans ma commune, ici, j'ai quand même fait 42 ans de mandat municipal, je connais un peu, je suis curieux, j'ai fouillé les archives. J'ai vu qu'en 1840 à peu près, le conseil municipal de l'époque avait été élu par 42 électeurs sur 2000 habitants que comptait Saint-Symphorien. Vous parlez de la démocratie, quoi. C'est marrant, ça. C'était tous comment on les appelait à ce moment-là, les cléricaux, peut-être, je ne sais rien trop, des notables. Et alors, avec la loi napoléonienne, hein, ils avaient tous les éléments en main pour prendre possession, par quelque combinaison quelconque, prendre possession des territoires. Hein. Mon grand-père m'a raconté ça. Il suffisait qu'ils aillent placer des bornes sur le territoire, et c'était à eux. Alors, ils pondaient une délibération au conseil municipal, pourquoi ils avaient vendu ce terrain, et finalement, c'était pour eux. Ça n'était pas juste, il fallait faire autrement.
Voilà. Voilà, c'est passionnant ce que nous raconte Raymond, ce n'est pas sans écho avec ce qu'on appelle la modernisation, vous savez, aujourd'hui, c'est-à-dire la privatisation, et tout simplement. Or, en 1857, c'est la loi d'assainissement et de mise en culture des Landes de Gascogne par l'empereur Napoléon III soi-même, qui ordonne à une centaine de communes des Landes et de Gironde, les communes dépassaient souvent les 50% de l'espace, d'abord d'assainir, puis de planter, et enfin de vendre les communaux. Voilà, et cette loi est rétrospectivement une loi de privatisation des Landes de Gascogne. Et cette loi fut avant tout destinée à faire évoluer l'économie par la suppression de l'ancien système agropastoral, on en parlait, mais qui était quand même autosubsistant, ce système, au bénéfice d'un système quasiment industriel appuyé par une privatisation du territoire. Au XIXe siècle, une bonne partie de la classe politique française était persuadée que seule la propriété privée était à même de faire évoluer la situation économique. Et ainsi, les Landes que vous traversez rapidement pour aller en Espagne, où vous vous promenez, ben c'est toute une histoire, parce que c'est là que s'est développé un capitalisme rural, ce qui a été l'objet constant de la lutte de Raymond Lagardère.
Il faut savoir, par exemple, que 60% de la surface forestière est possédée par 10% des propriétaires. Et c'est celui que je connais mieux, là où nous habitions, avec mes parents, et ils avaient dans les 600, entre 600 et 1000 hectares chacun. Et tout le reste, ce sont des petits propriétaires et moyens. Quoi. Entre 4 hectares et 100 hectares. Quoi. Il y en a pas mal qui ont une cinquantaine d'hectares. Mais enfin, considérant qu'ils sont propriétaires, ils se croient très gros. Quoi. Ils se comportent comme... ou ils suivent plutôt les consignes des gros propriétaires. C'est dommage, mais c'est comme ça.
Allez, Ricard, où tu es là ?
Comment il s'appelle ?
Ricard.
Ricard.
Ouais, Ricard. Là, c'est Ricard.
Alors ça, c'est la 4L spéciale forêt, ça.
Ah oui, il y a qu'à la voir.
Alors ici, on est à 4-5 km de...
Oui, près de
Saint-Symphorien.
Oui.
Donc on est à la limite du département de, entre la Gironde et les Landes.
C'est la limite. Ouais. Autrefois, ici, on avait des vaches, les onze familles qui habitaient ce... quartier là, même des moutons au début de notre siècle, hein. Une cinquantaine de vaches laitières et 4 attelages il y avait. On n'a pas su faire le pas entre la situation de l'époque, les attelages de bœufs ou de mules, et puis l'arrivée du tracteur. On arrive là, on va pas l'oublier.
Donc on range la voiture sous tous les fougères.
Voilà l'appartement. L'appartement de palombière. On fait notre cuisine.
Confortable.
Ah, j'avais envie d'une palombière où je pouvais inviter, recevoir les copains. Voilà. Il y a eu ici des réunions du bureau confédéral de la CGT, ici, à cette palombière. C'est marrant, du temps de Ségui et de Varcholac. Mais il y en a eu d'autres. Les gens de la mutualité sociale agricole, directeur et président du conseil d'administration, ils sont venus ici, à la palombière. Pourtant, ils savaient où ils mettaient les pieds. Ils mettaient les pieds chez quelqu'un qui n'était pas toujours de leur avis. Ah ouais, j'aime un peu ça, hein. La confrontation, l'échange. Voilà. C'est pour ça que dans la plombière...
Le rapport de force, quoi.
Ouais. Voilà.
Alors, moi, j'ai amené une petite bouteille de vin, hein, parce que je sais qu'il ne faut pas venir les mains vides, hein, dans une palombière.
C'est vrai, ça, on le dit. Pour aller dans une palombière, il faut ouvrir les portes avec les pieds. Ça veut dire que...
On a les bras chargés.
Voilà.
Oui. Bon, on s'installe où ? Ah, bah, au poste d'observation.
Oui,
bah, formidable.
Poste d'observation. Je me méfie des éperviers.
Ah, les éperviers, ils viennent attaquer les... Ah,
ils viennent attaquer les...
Les palombes.
Ah, ça va, c'est bon. C'est bon. La palombe, ça. Et on va faire un autre pas pareil. Au revoir.
Kai 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 hula mer kai 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 lumbukyt kai 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 luel de la sorciera kai 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 sus escuts kai 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 hula pura nere kai 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 lumbukyt kai 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 luel de la sorciera kai 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 sus escuts tu mamma. d'ab lo tambour de guerre, lo tambour d'aura de mon père, are i crâne ripataouer, le are i tande but. Domande ab lo tambour de guerre, lo tambour d'aura de mon père, are i crâne ripataouer, le are i tande but.
Alors ici à l'école, j'ai progressé énormément avec un instituteur. À ce moment-là, on disait il a franchi des divisions. Enfin, l'instituteur m'avait fait sauter des divisions. Et puis, pour en venir aux fêtes syndicales, il y a eu un congrès de la Fédération des Gémeurs et Métayers du Sud-Ouest en 1937. J'avais eu le certificat d'études en juin 37. Et il y avait toujours 300 congressistes environ. Pour tout le massif aquitaine. J'étais sidéré un peu, parce que vous voyez, les types là parlaient à la tribune, devant, par terre, tête là, sans papier, sans micro, sans rien, là. Ils parlaient. Il y en avait un qui dit. Et il disait, nous, les cégétistes, nous sommes pour l'unité organique. Et puis, sans l'unité, on ne s'en sauvera pas. On aura toujours le capitalisme. Ça m'a marqué, je m'en souviens encore. Alors. Et j'ai assisté aussi à la séance de clôture, où la décision a été prise à une majorité écrasante de faire adhérer la Fédération des Gémeurs et Métayers du Sud-Ouest, qui était autonome, la faire adhérer à la CGT. Voilà. J'ai commencé en auditeur. À être dans la CGT, quoi. Un auditeur, j'avais 12 ans.
Précoce. Notre Raymond, né en 1925, à 12 ans, il s'engage et il milite dans la CGT des gémeurs. Ça vous échappe peut-être le sens du mot gémeur. Eh bien, le gémage, c'est tout le travail de l'extraction de la résine dans cette région, la technique pour récolter la résine, térébenthine, colophane, etc., dont j'ai parlé, et toutes les applications. Aujourd'hui, c'est une activité complètement terminée, et Raymond Lagardère fait partie de ceux, ils sont bien rares, qui pensent que cette activité pourrait et devrait reprendre. Suite du récit de notre héros du jour.
Et puis, est venu après la guerre, bien sûr, l'occupation. Et comme beaucoup d'autres jeunes, à 17 ans, j'étais déjà dans un groupe de résistants. Quoi. C'était quand même risqué. Y compris de petites choses. Par exemple, mettre un 14 juillet un bouquet de fleurs au monument aux morts. Franchir la grille avec les patrouilles allemandes, tout ça, enfin, bien d'autres choses. Comme ça. Parce qu'il faut dire que mon père était quand même adhérent du Parti communiste depuis 1936. Donc il était engagé. Et en 1943, en été, il est venu un couple qui s'est présenté comme de la résistance communiste. Et ils avaient dans un paquet ficelé des numéros de l'humanité clandestine. On l'a distribué. Ça a été aussi une de mes actions premières. Après, ça a été les FTP. On avait un groupe ici. Et en fin 43 et début 44, on est devenu une unité, membre d'un maquis dans les Landes, le maquis de l'Incouac, qu'on appelait. Voilà. Qui était composé en majorité de guerriers espagnols. Qui se battait pour la France, là, hein, ouais, pour la liberté, contre les nazis, etc. Voilà. Après, la libération, alors, hein, j'ai été envoyé à une école de sous-officiers pour recréer l'armée française. 6 mois, encore, c'était. Je tombe malade. La mauvaise vie, dans le maquis, on se mouillait quelquefois, on n'avait pas la vie de recharge. J'étais malade des poumons. 6 mois à l'hôpital. Extrêmement chier, déclaré mort à la mairie de Saint-Symphorien. Et puis une nuit, paraît-il, on me racontait, le médecin-chef et puis l'infirmière responsable de l'hôpital aussi, ils m'ont appelé ça un traitement à froid, glacé, enveloppement. Et le lendemain matin, quand mon père et mon oncle sont arrivés à Toulouse, à l'hôpital, le major leur a dit « Raymond est vivant ». Voilà, un an de repos, et j'ai repris l'activité avec mes parents. Voilà, l'activité forestière, le gémage, la métairie. J'ai commencé à assister aux réunions du syndicat local, CGT. Donc j'ai participé aux réunions syndicales. Je me souviens de la première, d'ailleurs, ici localement, où j'ai pris la parole. Et là, à ces réunions syndicales, j'ai été désigné pour aller au congrès. Paf ! J'avais 21 ans. Au congrès, j'ai été chargé de prendre la parole. Quand j'ai vu ce parterre là devant moi, la parole, moi je l'avais écrit, mon discours quand même. Ouais. Et le micro, ouais, je n'ai jamais touché ou approché un micro. Enfin, j'avais 2 thèmes à traiter. Une carte de travailleurs de force pour tous les gémeurs, pour tous les résiniers et métayers, parce qu'on a sauté encore, il y avait le rationnement. Et l'autre, le deuxième thème, c'était l'unité syndicale, pour être fort devant l'autorité patronale. Voilà. Je fus vigoureusement applaudi. Et les responsabilités alors sont venues. En 1955, je suis devenu secrétaire général adjoint de la Fédération des gémeurs et métayers du Sud-Ouest, pour 10 ans plus tard devenir le secrétaire général. Voilà, mais j'ai continué le chemin des autres. Hein. La lutte. Il faut savoir que les gémeurs se sont battus. Hein. L'histoire des gémeurs, elle vient de très loin. En 1906, c'était des révoltés. Hein. Et puis ça se comprend de la manière dont ils étaient traités. Ils étaient payés à la barrique de résine à l'époque. C'était des prix extrêmement bas. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, les prix étaient fluctuants. Et le salaire était dépendant de la fluctuation des prix de la résine sur le marché de Dax, notamment. Si bien qu'ils avaient des miettes, quoi. Moi, j'ai des témoignages écrits, parce que je me suis intéressé à ça. La révolte les avait conduits à assiéger la maison, ou le château plutôt, d'un gros propriétaire pendant 2 jours. Ils étaient des centaines, là. Toutes les familles. Il y avait aussi, c'était joint à eux, les bergers. Et dans la maison, ils étaient en réunion. Il y avait aussi tous les propriétaires du patelin. Et le propriétaire était docteur et maire de la commune. Il a trouvé le prétexte de devoir aller chez un patient pour sortir, nous laisser sortir. Sans doute qu'il s'est démerdé pour prévenir le préfet des Landes, puisque c'était dans les Landes, qu'un détachement du 34e régiment d'infanterie de Mont-de-Marsan est venu ouvrir les rangs des révoltés, procéder à 2 arrestations. Ils ont été condamnés à des mois de prison. Ça a été la répression.
Il n'est plus d'heure, car grâce à notre CGT, oui, nous avons les 40 heures, et même le congé payé. Il est bien que chacun travaille, à chacun il faut des loisirs. N'est-il que le riche qui vaille pour accaparer les plaisirs? La servitude nous dégrade, libre les mains, l'esprit aussi. Il faut que chaque camarade, pour le bien, le comprenne ainsi. Et suit-il l'ombre d'une arme qui lui pour la fraternité. Alors l'existence a son charme et l'on peut dire en liberté.
En 1934, il y a eu de très fortes grèves. Ils ont fait un mouvement extraordinaire sur Mont-de-Marsan, quand Charles Prat est devenu secrétaire général. Et ils ont mis dans les rues de Mont-de-Marsan 30 000 personnes. Les arènes étaient trop petites. C'était extraordinaire. Voilà. Ça, c'était une grosse action de masse pour changer le rapport des forces.
Combien il y avait de gemmeurs à cette époque-là dans la forêt? Qu'est-ce que ça représentait comme salariat, comme prolétariat?
À l'époque, il y avait 20 000 gemmeurs. 20 000 familles de gemmeurs. Oui. Si bien que ça explique la présence de 30 000 personnes à la manifestation du 18 mars 1934 à Mont-de-Marsan. Ouais. Les gemmeurs, c'était la vie de la forêt, quoi, finalement. Le gemmeur était... Majoritairement, il faisait couler de la résine, mais c'était lui qui faisait toute l'exploitation forestière. Ce n'est que beaucoup plus tard que les bûcherons sont venus, etc., avec le passe-partout et tout. Voilà. Moi, j'ai pratiqué ça. Moi. J'étais membre d'une équipe de gémeurs forestiers. Je m'en souviens de tirer le passe-partout.
C'est quoi le passe-partout?
Le passe-partout, c'est une scie manuelle. Voilà. Deux personnes, un d'un bout, l'autre de l'autre, et puis comme l'archer au violon. Voilà. On tronçonne le bras, on fait tomber, on tronçonne, etc. À trois, on exploitait 15 pins par jour. Des pins adultes, des pins de 70 ans ou 80 ans. À trois. Alors, couper, tronçonner, ébrancher, écorcer. Elle nous faisait 5 pains chacun. C'est un travail de forçat. Hein. Ah. J'ai été mis en difficulté souvent, hein, à 16 ans, à 16 ans, 17 ans. Ouais. Mis en défaut par fatigue. Hein. Je sais qu'en fin de journée, une fois, je me suis planté l'outil décorcé dans la jambe, ça m'a coûté 2 mois à l'hôpital. Un accident du travail. Non pensionné, d'ailleurs. J'ai fait 2 mois d'hôpital et puis sitôt arrivé, j'étais au boulot. Hein. Ouais.
Ouais. C'était des braves à cette époque. On est quand même, sans trop de prétention, probablement la seule radio qui vous fait entendre la valse de la CGT. Vous avez remarqué ces paroles magnifiques. La servitude nous dégrade, libre les mains, l'esprit aussi. Il faut que chaque camarade, pour le bien, le comprenne. Ainsi, chantons de cœur joyeux ces folies, de ne jouir au mieux de la vie. La paix par le labeur, si féconde, apporte le bonheur en ce monde. Eh ben voilà, il y en a qui ont chanté ça de tout cœur, de toute leur force. Et ça n'est pas rien.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste le travail du gemmeur ou du résinier? C'est pareil, le résinier et le gemmeur.
C'est la même chose. C'était le résinier, la résine. Mais après, on a pensé à partir de la gomme, on a dit la gemme. La gemme, oui. C'est un produit collant, c'est la résine peint maritime. Et la résine, ben, d'abord, on la décompose en deux produits. La colophane d'une part, hein, un produit dur, séché au soleil, et l'essence térébenthine. Voilà. Ils sont très importants aujourd'hui, les besoins en produits résineux, dans l'industrie française et européenne. Mais les produits viennent de Chine, d'Indonésie, du Mexique, etc. À l'époque, on ne disait pas délocaliser, c'est venu après. Voilà. Nous, on a été délocalisés il y a un moment. Hein. Mm-hmm. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, on assiste à des choses révoltantes, et puis il y a bien des travailleurs qui se révoltent. Quand on en a plein les bottes, comme on dit, ben, on réagit.
Stembach. Però io me sa dire adio, adio, c'è un Stembach. Te ma per tu ma bele nu sei lei mai assente puisque te mal pensando alla montagna tu sei
J'espère que les gens vont se reprendre, quand même. J'ai confiance en les générations nouvelles. Là. C'est vrai. Je pense qu'on va globalement reprendre du poil de la bête et que la lutte est à l'ordre du jour. Ne pas se laisser faire, ne pas subir, revendiquer, chercher une vie meilleure, vivre correctement. Quoi. Pour le temps qu'on passe sur la terre, il ne faut pas que ce soit le bagne, quand même. Non. Oh. On a une période infernale, quand même, actuellement.
Alors, est-ce qu'il faut en finir avec le capitalisme ?
Absolument. Le partage de la création, quand même, il ne faut pas que ce soit accaparé toujours par les mêmes. Et puis, insolemment, en plus. Insolemment, et ben, tiens, je vais utiliser le terme, malhonnêtement. Mais enfin, je crois qu'il faut tourner une page, là. Une page d'histoire. Et c'est pour ça que le capitalisme, il faut remplacé par un système à inventer, sans doute, mais on est capable en France d'inventer des choses nouvelles. Hein. Nos ancêtres, ils ont fait des révolutions, quand même, il ne faut pas l'oublier. Moi, je suis quand même un très fervent de la lecture, on en parle peu, de 1870, où c'est les ouvriers qui ont pris le pouvoir, quand même. Hein.
La Commune.
Oui, la Commune, oui, la Commune. Et maintenant, je crains fort que si on laisse faire, les communes vont avoir le nom, mais on n'aura plus le fonctionnement. La démocratie qui était le raison d'être.
Et ici, est-ce qu'il y a eu une velléité comme ça des habitants de récupérer les communs, justement, qui avaient été mal acquis, usurpés, aliénés par la bourgeoisie, par les possédants ?
Oui, il y a eu des tentatives, mais elles se sont toujours heurtées à des rocs, quoi, des barrages. Moi aussi, j'ai essayé, quand j'ai passé 42 ans au conseil municipal, j'ai essayé. Mais les choses ont été apparemment toujours faites dans la légalité et couvertes par les autorités. Ouais.
Et ici, à Saint-Symphorien, qu'est-ce qui reste comme terrain communal, comme terre communale ?
Il n'y en a pas.
Il n'y a rien du tout ?
Si, il y a un terrain de football et de cimetière, hein. Et quelques autres parcelles, mais c'est insignifiant. Il ne reste plus rien. Les communes qui ont gardé des territoires après la loi de 1857 sont peu nombreuses. Quelques dizaines sur 400 et quelques qu'il y en a dans la forêt. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais confiance. Putain, ça y est, on va tout chambouler. On va faire la révolution. Confiance.
Donc vous aviez 20 ans, c'était en quelle année ?
En 45. J'ai toujours chez moi, en haut, là où je vais passer un peu, là, le programme du CNR. Il est toujours là. Ouais. J'ai toujours le programme original, publié par le CNR, avec les noms des membres du bureau de l'époque. Il n'y a pas que les communistes dedans, je te dis. Quand tu vois les Laniel, les Bidot. Et pourtant, c'était un programme de révolution. Hein. De révolution. Une partie a été appliquée.
avec comme président de Gaulle, quand même. Ah oui. Seulement, il y avait en bas une force qui poussait. On sortait de 4 ans d'obscurité.
Et aujourd'hui, le président Sarkozy qui va se recueillir sur le plateau des Glières, ça vous fait quoi, à vous ?
Oh, ça, c'est plutôt insultant de sa part. Là. Comme de s'emparer de Guy Mauguet. Ouais.
Merci Raymond Lagardère. C'était un reportage d'Antoine Chao. Merci aussi à Francis Dupuis, Gérard Coma, Alain Delmas, François Regla. À la technique aujourd'hui, Michel Bézikian, Éric Morin, Coyenne Guyenne et Raphaël Moutert ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebot et Catherine Pinto. Quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la Bastigis ou à 01 56 40 37 37. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Bastigis suit, où vous pouvez réécouter cette émission durant 24 heures. Vous pouvez également la réécouter sur labas.org, la-bas.org.
France Inter et le Théâtre National de Marseille La Criée présentent du 17 au 29 novembre La Nuit des Rois de William Shakespeare, mise en scène par Jean-Louis Benoît avec notamment Nathalie Richard et Dominique Valadier. Déguisement, tu es une perfidie. Je ne suis pas ce que je suis. Retrouvez La Nuit des Rois dans les émissions de France Inter.
16 heures pile poil sur France Inter. On se retrouve demain à 15 heures pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Dominique Delaroy. Salut.
Bonjour à tous. On attendait les révélations de Charles Pasqua. C'est en ce moment. L'ancien ministre de l'Intérieur donne une conférence de presse. Selon lui, Jacques Chirac et le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, Dominique de Villepin, étaient bien informés des ventes d'armes à l'Angola en 1995. Il a particulièrement visé Jacques Chirac, qui n'a rien fait, dit-il, pour arrêter le flux des exportations d'armes. L'ancien ministre de la Défense, Charles Millon, était également au courant. L'autorité palestinienne a décidé de reporter les élections générale prévue en janvier prochain, car il n'est pas possible de les organiser dans la bande de Gaza tenue par le Hamas. Plus de 2 200 000 mines antipersonnelles ont été détruites en 10 ans, un chiffre dont se félicite l'ONG Campagne internationale pour interdire les mines dans son rapport annuel. L'ONG prévient cependant que plus de 70 pays ne se sont pas encore débarrassés de leurs mines antipersonnelles. Brice Hortefeux n'abandonne pas son idée d'un couvre-feu pour les mineurs délinquants de moins de 13 ans. Il l'avait lancée au début du mois et elle avait suscité beaucoup de critiques, notamment à gauche et parmi les syndicats de policiers et de magistrats. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur précise qu'il s'agirait d'un couvre-feu ciblé et non pas d'une mesure générale. L'idée consiste à interdire les sorties entre 22h et 6h du matin aux mineurs ayant fait l'objet d'au moins une sanction éducative, sauf s'ils sont accompagnés d'un adulte. À Strasbourg, on est toujours sans nouvelles de Myriam Cazero, une jeune fille de 18 ans qui a disparu dans la nuit de dimanche à lundi. Elle a quitté le domicile familial sans emporter d'effets personnels. La police a ouvert une enquête pour disparition inquiétante et aucune piste n'est privilégiée, Johan Nicolas.
À ce jour, l'appel à témoins lancé par voie de presse n'a rien donné. Les deux enquêteurs mobilisés sur ce dossier ont épluché sans succès le répertoire de son téléphone portable. Il n'y a aucun indice. Des affichettes ont également été placardées dans le quartier du Neudorf où elle habite avec sa mère et son beau-père. Mais là encore, cela n'a rien donné. Myriam Cazero a disparu depuis dimanche soir. Elle est pourtant rentrée à la maison ce soir-là. C'est son petit copain qui l'a raccompagnée vers 23h. Et depuis, plus rien. On sait qu'elle a quitté l'appartement familial entre 23h et 5h du matin. Elle s'est changée et n'a rien emporté, même pas son portable. Myriam Cazero, qui prépare un bac pro, est une jeune fille de 18 ans sans histoire. Elle n'a jamais fugué. Personne ne comprend pourquoi elle est partie dans la nuit. On sait juste qu'avant de partir, elle a enfilé un jogging noir et surtout des chaussures de sport facilement reconnaissables, des Converse avec des lacets roses. Johan Nicolas, France Bleu Alsace pour France Inter.
1 million d'euros de bijoux ont été dérobés au domicile parisien de l'actionnaire principal du réseau d'agences immobilières La Forêt. Plusieurs malfaiteurs se sont introduits par effraction hier après-midi dans l'hôtel particulier que possède cet homme d'affaires dans le 14e arrondissement de Paris. Ils ont ensuite emporté le coffre-fort. Arnaud Clément s'en va. Il a été battu en 8e de finale du tournoi de Paris-Bercy par le Serbe Novak Djokovic en 2-7, 6-2, 6-2. De son côté, le Suédois Robin Söderling a sorti le Russe Nikolai Davydenko.
France Inter et le Théâtre de la Commune d'Aubervilliers présentent du 13 novembre au 6 décembre La Ménagerie de Verre de Tennessee Williams, mise en scène par Jacques Michet.
Là-bas, à l'entrepôt, il n'y aurait pas de gentils garçons?
Non.
Il y en a forcément quelques-uns.
Maman.
Trouve-en un qui soit comme il faut, qui ne boive pas, et invite-le pour petite sœur.
Retrouvez La Ménagerie de Verre dans les émissions de France Inter.
France Inter. La différence.
Bientôt 16h04, l'heure du carrefour de l'Odéon avec vous, Frédéric L'Odéon. Bonjour.
Bonjour Dominique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. À la radio ou dans les concerts, on entend la musique bien préparée, toute faite, si j'ose dire, enfin, qui se déroule quand même selon quelquefois les émotions des instrumentistes, des chanteurs, des chefs d'orchestre ou même du public, parce que le public influe sur l'interprétation par sa présence ou son absence mentale. Quelquefois, si le public n'adhère pas à l'interprétation, l'interprète peut le sentir et être dérouté ou au contraire faire un effort supplémentaire. Enfin, tout ça, c'est une alchimie extraordinaire, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours avant des répétitions. Et il y a des répétitions qui sont célèbres dans l'histoire de la musique, celle de Toscanini, qui était un personnage flamboyant, quelquefois intrépide, et il est certain qu'un chef d'orchestre aujourd'hui ne pourrait pas tellement se comporter comme ça. Il hurlait facilement, cassait sa baguette, mais nous avons quelques répétitions un peu plus tranquilles, mais ça reste relatif. Voici Toscanini qui dirige un extrait du final de la 35e symphonie Hafner de Mozart. C'est au moment justement de la répétition, pas encore le concert.
Non si capisce niente.
Maybe you have to do something. Best is not. Ah, no, 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 deve sbare un pasticcio. Via. Adagio un momento. Mi diese e mi naturale. Adagio. Andiamo più presto no. Oh.
Allez.
I want to hear the piano. La-la-la, la-la-la-la-la. La. Un po' di differenza. La-la-la. Esagerazione. When you can't understand, not in the music. E passi. Ah, in the reprise. Sì, la-la-la. Della star.
Yes.
Sì, la-la-la.
Même si on ne parle pas l'anglais, lui, il ne parlait pas si bien que ça non plus. On a compris Toscanini qui mélange l'anglais, d'ailleurs, et l'italien. Au début, il dit « on ne comprend rien », et puis en italien, après ça, il discute, il veut avoir un piano plus marqué, une nuance plus douce. Et puis enfin, il dit « non, non, non », bon, ben ça, on a compris. Et puis il a chanté, vous l'avez entendu, d'une voix un peu éraillée dans l'aigu, enfin, pour avoir la justesse. Bref, on connaît ces répétitions de Toscanini depuis longtemps dans le milieu musical, son spectacle. Et là, je le répète, il était extrêmement calme par rapport à d'habitude. Ça a été enregistré en 1946 avec le NBC Symphony à New York. Mais il y a des cours très intéressants aussi, avec des professeurs peu